Alors, pour commencer, j'ai demandé à Pete Fromm de parler un petit peu de lui, de sa vie d'auteur dans le Montana, enfin de se présenter en quelques mots avant de commencer à entrer dans le vif du sujet et à parler des livres.
My name is Pete. I feel like I'm in AA meeting. I come from Montana in the United States. It's big and very wild. Country. I live in the mountains. The first book that Gallmeisters published of mine was a story of nonfiction about a winter I spent alone in a wilderness area taking care of salmon.
Donc, je m'appelle Pete et j'ai un peu l'impression d'être à une réunion des alcooliques anonymes ce soir. Mais bon, je viens du Montana. Alors, donc, certains d'entre vous y ont déjà été. C'est un État qui est très grand. Très grand et très sauvage, une région montagneuse. Et donc, vous prenez la côte ouest, vous avez l'État de Washington et...
Washington, Oregon.
Oregon, Idaho, et juste à côté, donc le Montana. Voilà. En fait, c'est à peu près... Vous prenez le centre des États-Unis en haut et ça va être juste à l'ouest du centre, on va dire.
By car is... 12 hours from Colorado.
Voilà, là où je vis, c'est à 12 heures du Colorado, de Denver.
I just drove there because my son's going to college there next year.
Voilà, d'ailleurs j'y vais en voiture souvent parce que mon fils va aller à l'université l'année prochaine là-bas. Donc il disait que le premier livre que les éditions Gallmeister avaient publié était un texte, un récit autobiographique qui racontait comment il s'était retrouvé pendant un hiver tout seul dans les montagnes à s'occuper de saumon.
That's in the very center of the country. And it was a big city, a million people. And I went to Montana just to be someplace else. When it was time to leave, I was 17. I wanted to go far away from my family and my parents and big cities. So I went to Montana, a place I'd never been. And a couple years later, I heard this chance to work in a tent from October to June in the Selway Bitterroot Wilderness area. And I'd never cooked in my life. I had to buy 7 months worth of food to bring in with me. I could not have been less prepared. Or I don't even think they let you do it today. They sort of thought, we'll see you in the spring if you're still alive.
Donc moi je venais d'une grande ville et je suis partie au Montana parce que c'était un pays sauvage, c'était un état dans lequel j'avais jamais été auparavant, mais quand j'ai eu 17 ans j'ai choisi d'aller au Montana parce que c'était une région qui me semblait très éloignée de là où était ma famille et que j'ai eu à ce moment-là cette opportunité. On m'a proposé de passer 7 mois, donc d'octobre à juin, sous une tente au milieu des montagnes, en plein cœur d'un territoire sauvage, complètement seul, donc pour garder des œufs de saumon dans la rivière. Et j'ai accepté cet emploi, mais je n'étais absolument pas préparée à cet emploi. J'avais jamais fait la cuisine, moi, de toute ma vie. Et là, je me retrouvais à devoir préparer, acheter la nourriture pour 7 mois à survivre dans les montagnes tout seul. Et même encore aujourd'hui, je ne serais pas prêt à faire je n'aurais pas pu être moins préparé. Et encore aujourd'hui, ça serait difficile d'organiser tout ça. Et quand ils m'ont laissé là-bas, ils m'ont dit « Bon, on te revoit dans 7 mois si tu es toujours vivant. »
And by Christmas, the snow was over my head. The temperatures had dropped to 40 below zero, which is the same in centigrade and Fahrenheit. And somehow I did. I hope I don't give away the ending, but I did not die. And I went back to school after that. I had no intention of ever being a writer. I was a student in wildlife biology, and after taking a year off to live in the mountains, I spent the next year backpacking in New Zealand because I couldn't quite go back to school. And then my parents told me that if you don't go back to school, don't come home. So I went back to school, but being alone in the mountains for 2 years had matured me to about 2 years old. I couldn't stand being told what to do. So when I went back to the university, I thought, I've got to do this all in 1 year. So I was really only in the university for 3 years. And I took so many classes to get the minimum required to graduate. My last semester, I didn't have enough time in the day to take all the classes I needed. So I had to find a night class. And the only class I could find at night was Introduction to Creative Writing.
Alors, donc je suis partie en plein cœur des montagnes et quand Noël est arrivé, la neige atteignait une hauteur qui me... Enfin, elle était plus haute que moi. Il y avait des températures de moins 40 à l'extérieur. Mais bon, tout ça étant... Alors, je vais vous révéler la fin du livre. Je ne suis pas mort dans les montagnes. En sortant de cette expérience, j'ai voulu retourner à l'université et simplement, je n'ai pas pu. J'avais pris un... J'étais étudiante en biologie naturelle pendant une année j'ai donc quitté l'université et j'ai été baroudée en Nouvelle-Zélande et à ce moment-là, à la fin de cette seconde année, mes parents m'ont dit si tu ne retournes pas à l'université, c'est pas la peine de revenir à la maison. Donc je suis retournée à l'université et cette expérience dans les montagnes m'avait occupée pendant 2 ans de ma vie. Donc quand je suis retournée à l'université, je me suis dit qu'il fallait que je rattrape ce temps perdu et j'ai cumulé les cours pour pouvoir obtenir mon diplôme. Donc j'ai additionné les cours que je devais prendre et au dernier semestre de mes années d'études, j'avais tellement de cours dans une même journée que ça en devenait impossible. J'ai été obligée de prendre des cours la nuit et le seul cours qui était disponible la nuit, c'était un cours d'introduction à l'écriture. Et alors que je n'avais jamais pensé à devenir écrivain un jour, je me suis inscrite à cette classe.
Bonjour.
Bonjour, excusez-moi d'être arrivé en retard pour poser quelques questions à Pete Fromm. Je suis vraiment très très heureux de rencontrer Pete. I had a problem with my skis when I tried to make it over here. So I was sort of delayed by the heavy snow.
I know what it's like.
Je lui dis que j'ai été retardé parce que j'ai eu un problème avec le fartage de mes skis. Parce que dans Indian Creek Chronicles, il y a une historiette, enfin une vignette très très drôle. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous en avez déjà parlé. Et donc... Peut-être qu'on va faire la transition avec la traduction du roman pour laquelle Pete nous a fait l'honneur de venir ici aujourd'hui, qui est ce roman « Comment tout a commencé », dont la facture peut paraître un peu surprenante quand on connaît Pete Fromm de par « Indian Creek Chronicle ». Qui est comme vous l'avez compris, un roman qui s'inscrit de façon très claire dans la tradition très américaine et très formatée, on pourrait dire, quoique Peter Fromm se rattache à cette tradition avec beaucoup d'humour, je dirais, un sens du second degré. On a là dans Comment tout a commencé, qui est un roman donc antérieur. Non, postérieur, pardon, à Indian Creek, un roman où la question de la relation à la nature n'est pas aussi centrale que dans Indian Creek Chronicles, si on voulait résumer le type de roman. On dirait que ça s'apparente à première vue plus à un drame familial, un drame psychologique. Même si ce drame se déroule dans un décor naturel, un univers naturel très, très présent, très fort, qui est celui du Texas. Et donc, moi, c'était la première question que je voulais poser à Pete à propos de ce roman où il est question donc, des relations entre un frère et une sœur, leurs parents, le baseball, la maladie, puisque la sœur est malade, elle est atteinte d'un trouble mental. Et à travers la question de la maladie, la question de la normalité aussi qui se pose, je crois, de façon très forte dans ce roman. Je voulais lui demander si, justement, il lui semblait que la nature, dans ce roman, comment tout a commencé, tenait encore un rôle important. Non pas simplement comme un décor, mais plus qu'un décor. Parce que c'est vrai que... Est-ce qu'on vous a lu un passage du roman ? Je peux peut-être lire le début du roman. Vous allez voir, c'est très frappant. Voilà comment ça commence, en français. Hein. Des rafales hurlantes mordaient les coins de la maison, percutaient la toiture, secouaient les vitres. Et j'étais étendu dans le noir, les yeux ouverts, j'écoutais. Ces tempêtes, papa les appelait des « blue northers », les tempêtes bleues du nord. Et à travers le bruit du gravier qui fouettait la maison, le crissement occasionnel d'un créosotier projeté contre la façade, par-dessus les gémissements plaintifs du vent lui-même, je m'efforçais d'entendre les premiers signes du retour d'Abilène. J'avais même gardé mon jean pour ne pas être nu quand elle rentrerait. Donc ce qu'on note dès le départ, dès cette entrée du roman, c'est la présence d'une nature puissante, d'une nature incontrôlable. Et on remarque aussi d'emblée l'association entre la nature et le personnage de la sœur, Abilene. Puisque ce jeune garçon est là, dans sa chambre, il écoute donc le fracas de la tempête et il attend l'arrivée de sa sœur, puisque bon, ils ont convenu qu'à chaque fois qu'il y aurait une tempête, ils se retrouveraient. Donc à partir de ce début du roman, je me suis posé la question finalement de quand même si la nature n'avait quand même pas une place très importante encore dans ce roman.
Yes, it's from the translation. It sounds as if you've hit on exactly why. In Indian Creek, nature was almost the whole story. There was just me lost in it. In this novel, it does start out with the storm, and he's waiting for his sister Abilene to return, and she is the storm. And I set the novel in West Texas. I worked down there as a park ranger, and it's absolutely the most desolate, hostile, barren ground that I know of. And I wanted to put this family, I wanted to isolate them. So the only thing in the story was the family. There was no outside for them to retreat to or seek solace in. And so the family was going to have to get through this on their own. So I wanted a claustrophobic setting. So I put their home alone in this desert and started the story with this big storm coming in, which is Abilene. And then every time she leaves, the story, instead of following her, stays with the family. So then the desolateness becomes, you know, the metaphor for life without her.
Oui, alors d'après ce que j'ai compris à votre question, effectivement c'est exact. Alors dans Indian Creek, la nature représente tout parce que c'est le récit de mon expérience, moi perdue dans cette nature. Dans ce roman, comment tout a commencé, effectivement le récit débute par cette tempête et on parle de la sœur et Abilene en quelque sorte est la tempête pour cette famille. J'ai moi-même travaillé au Texas en tant que ranger dans les parcs naturels, et je ne connais pas aux États-Unis de nature qui soit plus hostile, qui soit plus désolée que ce coin des États-Unis. J'ai voulu donc situer le récit dans cette partie des États-Unis parce que je voulais isoler la famille d'Austin et d'Abby Lane. Je voulais que ce cercle familial soit la seule chose qui existe et qui n'ait aucun moyen de s'en échapper. Donc ils doivent traverser l'épreuve auxquelles ils vont être confrontés dans le roman, seuls, en ne comptant sur personne d'autre. Il y a une espèce de sentiment de claustrophobie au milieu de ces grands espaces. Et Abby Lane, c'est cette grande tempête qui va chambouler tout dans leur existence. Et quand Abby Lane part, j'aurais pu choisir de la suivre en fait dans ses pérégrinations, mais non, moi j'ai choisi de rester avec le reste de la famille pour voir et d'explorer en fait leur existence dans cette contrée désolée quand elle est partie.
C'est vrai que ce qui est très frappant, c'est tout ceci se passe dans un désert immense, illimité, et vous avez parlé de claustrophobie, c'est un huis clos en même temps, presque terrifiant. D'étroitesse. Alors, je voulais revenir sur ce que vous avez dit de Abby Lane. C'est la tempête. Est-ce que ce serait juste, alors, est-ce que ça correspond à votre intention de voir dans Abby Lane une force naturelle indomptée que la société s'acharnerait à essayer de dompter? Is that part of what you were trying to do?
Yes, part. This book started as a short story, and in the short story, she was just wild. And it was definitely, people were telling her, you can't behave that way. And when it grew into the novel, the wildness got even beyond what society was trying to tamp down. It got to be uncontrollable. It got to be damaging. And so her brother, Austin, the narrator, really doesn't want her tamped down. He's just, no, that's who she is. You've got to let her go. And in manic depression, there's a big problem with keeping the highs or losing them. And beyond society, to who can, how far can you go and what's too far? Mm-hmm. And her brother not wanting to see her reduced in any way, even though it's damaging him and her. Yes, he's very concerned about her, but he's also in denial. He just doesn't want to say that there's anything wrong with her. He doesn't want anybody to try to control her.
Oui, alors en partie, à l'origine de ce roman, il y avait une nouvelle, en fait. Et dans la nouvelle que j'écrivais, Abby Lane était un personnage parfaitement sauvage et tout le monde autour d'elle lui disait en permanence qu'elle ne pouvait pas se comporter comme elle le faisait. Et puis, cette nouvelle a grandi jusqu'à devenir un roman, et ça a été moins extrême. C'est-à-dire que ce caractère sauvage d'Abby Lane est devenu quelque chose qui blessait les gens autour d'elle, qui devenait destructeur en réalité. Et Austin, donc le frère d'Abby Lane, est quelqu'un qui ne veut absolument pas qu'elle puisse être contrôlée. Mais quand on est maniaco-dépressif, et c'est le cas d'Abby Lane, se pose la question de ce qu'on va perdre et de ce qu'on va garder de soi quand on commence à essayer de contrôler ce qu'on est. Et même si la société pose toujours cette question de ce qui est, nous impose des normes, effectivement, il y a un moment où le comportement maniaco-dépressif va dépasser ce que la société peut admettre. Austin, ce personnage, ne veut absolument pas que Abby Lane soit contrôlée parce qu'il ne veut pas qu'on réduise ce qu'elle est. Il veut la garder telle qu'elle est, et même si il est blessé par son comportement à certains moments.
Oui, alors justement, pour poursuivre un peu là-dessus, moi, un des aspects que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant, c'est cette ambiguïté et cette indécision dans laquelle on se trouve en tant que lecteur face à la façon dont est décrite la cure d'Abilène, puisqu'il va s'agir de soigner cette jeune fille maniaco-dépressive et de la ramener à une certaine forme de normalité. Et on ne peut pas s'empêcher, quand on lit le roman, d'éprouver une sorte de tristesse face au récit de la cure, comme si ce retour à la normalité était quand même beaucoup plus de l'ordre de la perte que de l'ordre du gain. As if there was much more that was lost than that was gained. Et dans la première partie du roman, quand Abilène est malade, voilà, c'est cette espèce d'ouragan incendiaire, incontrôlé, mais qui est aussi une force créative. On saisit quand même, on est frappé par le côté positif de cette force, même si elle est incontrôlable. Et finalement, on regrette presque qu'elle soit guérie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu communiquer à vos lecteurs, cette incertitude-là sur la normalité?
Point that it's better not to treat.
Well, as far as I'm concerned, it's impossible to say whether it's eventually it was a good or a bad thing to treat her. And I would say personally that in the way in which it was described, the reader feels the loss a lot, as if she almost died by being cured. And on the other hand, of course, we see that she has to be cured, right, when she picks up the guns. So I was wondering whether you intentionally sort of left it open, because the way I read it, when she's cured, it's both sort of necessary, but also extremely saddening.
Yes, that's what I wanted to do. It's a problem that doesn't have a correct answer. And you said it very well there, just saying that it's kind of like she's dying, but without it, she probably would die. I was, for hundreds of pages of writing this, I was very frightened every day going to work to write that Abilene would die. And I was really hoping she wouldn't, but she was on such a path that I was afraid, I don't know if she's going to make it. And so I very much wanted to leave it open to not say, yes, treatment's a good thing, or no, you should let them run. Because that there is no line like that at all.
Alors oui, exactement. Je pense pas que ce problème est une bonne solution, en fait, parce que effectivement, le traitement, c'est une sorte de mort pour Abilène. Mais en même temps, si elle ne traitait pas son problème de bipolarité, elle serait probablement morte. Et tous les jours, quand j'allais écrire et que je m'installais à ma table de travail, c'était la peur que j'avais. J'avais peur que Abilène ne passe pas la journée et que elle en vienne à mourir, parce qu'elle était dans des situations tellement terribles que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Et j'espérais que ça ne se ferait pas, mais j'en étais jamais certain. Donc, c'est une question à laquelle on ne peut pas bien répondre oui ou non, parce que c'est beaucoup plus complexe.
Et donc, quand vous écriviez, vous ne saviez pas encore ce qu'il allait arriver à Abilène. Ça s'est décidé en cours d'écriture. Et vous avez eu du mal à la guérir.
To put her through that process of Oh yes.
Heating with a lot of.
Yeah. My wife describes my work as going down to my basement and playing with my imaginary friends, and it's very much like that. I get up every day very excited to go to work because I want to find out what will happen. And as this story grew more harrowing, it was excited to go to work, but also, oh boy, I hope things go okay. And when I write, I don't ever want to be in, I don't ever want you to think of me. I want to put you into the story, so into the narrator's, I want you to be Austin and see the world the way he does. And so when you asked before about leaving it open, I wasn't really trying to make a statement. I was just trying to show what Austin's emotions were through all this. And does he want his sister to go off on this firebolt trail, or does he want her reined in so she might survive? And so that's, he doesn't know, so that's why it's open that way.
Oui, alors ma femme décrit ma vie d'écrivain comme, me décrit en train d'écrire comme si tous les jours j'allais dire que je vais dans ma cave pour jouer avec mes personnages imaginaires. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ça. Tous les matins, quand je descends dans ma cave, je suis très très excitée par le fait d'aller retrouver mes personnages. Et dans cette histoire, au fur et à mesure que le roman s'écrivait, j'étais très excitée, mais très inquiète de plus en plus, jour après jour, de plus en plus inquiète. Et cette histoire, je veux que vous la viviez à travers les yeux d'Austin, parce que c'est le narrateur et je veux que vous entriez dans sa peau. Et si je ne veux pas répondre à la question pour ou contre le traitement, c'est parce que je veux que vous soyez à sa place et lui n'a pas de réponse à cette question. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il voudrait qu'Abilene reste cette espèce de balle de baseball qui va très rapidement et qui détruit tout sur son passage. Et en même temps, il veut pour elle aussi la sécurité.
Oui, et alors vous avez parlé tout à l'heure du huis clos familial au milieu de ce désert et donc voilà ce milieu claustrophobe, mais il reste que l'endroit où les adolescents vont jouer au baseball est une ancienne base militaire. Un aérodrome militaire désaffecté de la Seconde Guerre mondiale où étaient entreposés principalement des bombardiers, y compris, semble-t-il, le fameux Enola Gay, l'avion qui a lâché la bombe sur Hiroshima. Alors, il y a quand même... On a quand même l'impression que vous voulez donner une sorte de socle historique national à ce qui se passe, que c'est pas donc complètement déconnecté quand même des relations sociales, de l'histoire du pays. Et est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi cette base militaire aérodrome dont les murs sont encore criblés de balles avec la with the painting of the fading painting of the soldier he died from talking too much or something
he died because someone talked
well, I didn't have the English text he died because someone talked yes so why this choice and was...
when working on a novel you spend years doing it, about a year for the first draft and 2 years for rewrites. And a lot of things come in during that time. And I went called up the high school in Pecos, Texas, and asked if I could come down and teach English to their students for a week. So I could have contact with their students. And they just said, sure, which I was very surprised by. And when I showed up in the English class, the teacher just left. She just thought, great, I get a day off. And I asked the kids, what do you do? What do you do when you're not in school? And it's a very small rural town. And they said, well, we drink. And I said, oh, well, where do you drink? And, well, at the old bomber base. And I said, the old bomber base, what's that? And then they told me about this bomber base, and I found out the history of it. And suddenly I had a way to bring, and I went to the old hangar walls, and there was a painting of a dead soldier. This was World War II kind of propaganda. Because someone talked, that means they gave away a secret, and somehow this guy was killed. And it was such a perfect metaphor for Austin trying not to let anybody know that his sister may be sick and keep it all silent. And it was the base where they, after the war, they stored all the bombers that they weren't using anymore. Are you okay? And to know that the bomber that dropped the bomb on Hiroshima was stored there, that became part of the story too. And it did give it a bigger U.S. Connection with the guns and the violence and the idea that this stuff can just be put away then, which goes towards what maybe happens to Abilene if they can medicate her down. Then what? Do we just? I don't know what it's called in France. It's in the U.S. It's mothballed. That's what they.
C'est la naphtaline, mothballed. On lui met de la naphtaline pour qu'elle. Pour s'en débarrasser.
Alors, quand on travaille sur un roman, c'est un processus assez long. Alors, j'ai écrit ce texte, ça m'a pris un an pour rédiger un premier brouillon, puis 2 années ensuite pour retravailler sur le texte. Pendant ces 3 années, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans une vie d'écrivain. Et pendant cette période, demandé à un lycée au Texas si je pouvais venir pour aller enseigner l'anglais pendant une semaine à leurs élèves. Et j'ai été très surpris, ils m'ont répondu, mais oui, bien sûr. Donc, je suis arrivée dans la classe et là, les professeurs sont partis en se disant, formidable, on a une journée de vacances en plus. Et donc, ils m'ont laissée avec les enfants et là, j'ai posé cette question aux gamins, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient de leur journée quand ils n'étaient pas à l'école. Et alors, c'est un endroit où il n'y a pas grand-chose à faire, c'est très rural. Et là, ils m'ont dit, on boit. Alors, j'aurais dit, ouais, mais où est-ce que vous allez pour boire? Et ils me disent, on va sur la vieille base militaire où il y a les bombardiers. Et donc là, ils m'ont raconté, en fait, cette histoire et que c'est un lieu que j'ai donc repris dans mon roman. Et il y a dans ce lieu une peinture d'un soldat qui serait mort parce que quelqu'un aurait révélé un secret militaire et les choses se faisant, sa mort aurait découlé de la révélation de ce secret. Je trouvais que c'était une métaphore très belle pour mon roman puisque Austin est en fait quelqu'un qui essaie de protéger son propre secret qui est que sa sœur agit d'une manière folle et il ne veut pas révéler cette folie aux autres. Et c'est donc un endroit où les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale ont été entreposés et mettre en scène ce lieu, ça me permettait d'aborder une question plus générale, de parler des États-Unis, de parler de leur rapport, enfin du rapport de ce pays aux armes et puis de voir que ces bombardiers pouvaient après la guerre être mis là et être laissé là, c'était aussi un moyen de poser la question d'Abilene. Est-ce qu'on pouvait à un moment comme ça traiter sa maladie et en quelque sorte la figer dans une forme d'état, un petit peu comme si on la conservait entourée de naphtaline.
Oui, tout à l'heure vous avez dit que Abilene était une sorte de tempête. On a aussi plusieurs raisons de penser quand on lit, quand on regarde la façon dont vous écrivez, qu'il y a aussi un lien entre Abilene et peut-être la guerre. En tout cas, tout ce qui tourne autour des projectiles avec les balles de baseball. Et vous avez choisi donc de les faire s'entraîner au baseball sur une base militaire. Alors, est-ce que vous voyez, est-ce que vous essayez de suggérer qu'il peut y avoir un lien entre le baseball et la guerre? Ou est-ce que c'est trop simple de voir les choses comme ça?
Sometimes a cigar is just a cigar.
Oui, parfois un cigare n'est qu'un cigare.
Yeah, that would be going too far. A lot of when you use things that become symbols, you're putting them in subtlety is very important. You have to trust the reader. And so you, of course, don't explain any of these symbols. You just give them, well, it is at a bomber base. This is where the bomber was stored. And let them link together as much as they will. And beyond that, you hope to show enough that they make links. But I didn't. And then people do make stuff that you never intended. And sometimes it makes you seem really brilliant, but they just will say, wow, you thought of that. First time I've heard of it. But the link from baseball to war wasn't intentional at all. The baseball was put in to show how something that could seem harmless escalates and slowly reveals what's going on with her and the family and how it does become something violent. I mean, she injures him through it. And then after that, she just says, we're done with baseball. We're moving on to guns.
And the father, too.
Yes, that's right. Sorry. I forgot my own story.
Yeah. She breaks the father's nose.
Right. Yeah. Right.
Oui, alors là, c'est peut-être aller un peu trop loin. C'est vrai que dans un roman, vous mettez des éléments qui deviennent des choses symboliques. Et en fait, vous faites confiance au lecteur. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire ça, c'est symbolique. Enfin, ça représente telle ou telle chose. Non, vous mettez des éléments et vous attendez, vous en dites suffisamment pour que le lecteur puisse lui-même faire les connexions que vous jugez nécessaires. Mais évidemment, les lecteurs font parfois des liens entre les choses que vous n'avez pas voulu mettre vous-même dans le livre. Des fois, d'ailleurs, quelqu'un évoque comme ça un lien symbolique et vous vous dites que vous êtes probablement quelqu'un de très brillant d'avoir mis ça dans votre livre, mais c'est pas toujours le cas. Là, en l'occurrence, le lien sur la guerre et le baseball, alors je n'ai absolument pas voulu dire ça dans mon roman. Le baseball, c'était une activité familiale et justement, il y a un moment où le baseball va devenir de plus en plus violent jusqu'à et où Abby Lane va commencer à vouloir jouer avec des armes à feu, dépasser le baseball pour faire autre chose.
Il y a quand même, je vous crois pas complètement là dans ce que vous dites, parce qu'il y a un moment, il y a plusieurs moments où vous écrivez, vous mettez en scène les personnages et par exemple, Abby Lane dit à Austin, fire. Donc, tire, mais bon, fais feu aussi. Et dans cette façon qu'elle a de lui apprendre à lancer le projectile le plus rapide possible, le projectile qui tue, on lit quand même quelque chose qui n'est pas simplement dans l'imagination du lecteur.
And also all that revolves around the use of the element of fire, which is really impressive, I found. I don't know if you remember.
No, I do. Especially with the tattoo.
Yes. The tattoo is kind of military too, isn't it? there's something, no, it's not necessarily.
Not necessarily military, but definitely.
It burns.
Yeah, it burns. It's flames. It's violent. And the almost all the expressions with she's trying to get Austin to be to throw a baseball faster than it's ever been thrown by a human, and her expectations go beyond. The fastest then was 100 miles an hour, and she says 100, 110, 120. They exceed the physically possible, and she's the push is always to go so far beyond. And she, as you pointed out, she does use the baseball actually as a weapon by the end of it, and the. It's all to build up that heat, the heat of the story, the fire within it. I wasn't going for more military, but just that forward, unstoppable, burning drive, and the speeding up. Everything's going faster and faster.
Oui, alors Abilene se fait aussi faire un tatouage, qui est un tatouage avec des flammes, un feu, qui est quelque chose qui représente aussi la violence. Et dans sa manière de parler avec Austin, enfin ce qu'elle recherche, c'est de faire d'Austin le lanceur de baseball le plus rapide de tous les temps. Et elle veut dépasser même, enfin à chaque fois, elle augmente un petit peu ses attentes par rapport à lui. Il va falloir lancer la balle à 100 miles à l'heure, puis de plus en plus rapidement. Dépassant ses attentes, dépasse même ce qui est physiquement envisageable. Donc le baseball, c'est sans aucun doute quelque chose qui a un lien avec une forme de violence, cette forme d'accélération dans le comportement d'Abilene qui n'est pas nécessairement militaire.
And something that's known in the US, now that I'm here, I'd wish I'd written about football, but in the U.S., it's known that the harder you throw, what the limiting factor is, the faster you throw, the harder it is to control. So you have to throw it into a small space, and the harder you throw, the harder it is to control that. And so that's a link that the United States readers can make. And so it's the same thing. It's go faster, keep it under control, which is what becomes impossible. Both with the baseball and with her life.
Oui, alors bon, après, le baseball, c'est un sport américain. Alors maintenant que je suis ici, je regrette de ne pas avoir écrit sur un livre sur le football. Mais c'est quelque chose que les lecteurs américains savent très bien, c'est que plus on lance fort, plus la balle est difficilement contrôlable. Et donc, ce qu'Abilene veut, c'est que son frère lance très fort, très rapidement. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, de garder le contrôle sur une balle extrêmement forte et rapide.
Il y a aussi, bien sûr, quelque chose de très troublant dans la relation qui s'établit entre le baseball et la sexualité de la sœur, du frère. Est-ce que c'est une façon pour ces jeunes, le baseball, de découvrir leur sexualité?
Not that so much. The her sexuality becomes another force that she uses, not against Austin, but it's something she has. And Austin's 15 and starting to become sexually aware, and he realizes that his sister is not only this huge force, but a very sexual person. And when she's off on her manic sprees, a common side effect of that is promiscuity. And eventually she starts, pardon me, she has a flaming baseball tattooed across her chest. And she shows that to Austin in such a way that he has no idea what to do with that. And it's just another way that she keeps him off balance and keeps her control of him and taken to beyond the limits.
Alors, pas vraiment, mais la sexualité d'Abilene, c'est aussi quelque chose, une autre de ces forces qu'elle a en elle, qui est complètement incontrôlable. Alors, elle est plus âgée qu'Austin, donc elle a effectivement une sexualité très affirmée. Austin, il a simplement 15 ans, il en est juste à la découverte de tout cet univers, et il réalise à quel point sa sœur a cette sexualité forte, en elle, et Abilene s'est fait faire un tatouage un tatouage lié au baseball avec des flammes sur sa poitrine, et elle va montrer ça à Austin dans une des scènes, et Austin ne sait pas trop comment réagir face à ça, et en quelque sorte un peu mal à l'aise. Et pour Abilene, finalement cette sexualité, cette force, c'est encore quelque chose qui va créer cette relation à son frère, une manière de le contrôler, etc. Et un territoire dans lequel elle va de nouveau pouvoir dépasser les limites.
Et c'est aussi une des manifestations de cette puissance d'Abilene, mais cette puissance ravageuse, n'est-ce pas, cette puissance incontrôlable, j'ai envie de dire incendiaire, parce que le feu est quand même très très présent, le feu du soleil, le feu de fireball, hein, le feu de cette balle de baseball qu'on envoie comme ça là, avec cette puissance, c'est la fireball, hein, c'est la boule de feu. Et d'ailleurs, sur le tatouage, c'est représenté par une espèce de comète. C'est aussi quelque chose qui disparaît, évidemment, avec la guérison d'Abilene.
That's also something which she loses in the process of being cured, right?
Right.
Yes.
Right.
And is that part of the losing process?
Yes. Shutting her down, yeah. and damping shutting that fire is that's definitely set up to be part of under the shadow she comes.
Oui, effectivement. Alors, les médicaments, c'est quelque chose qui dompte le feu qui est en elle et qui la ramène à quelque chose de à n'être plus que l'ombre d'elle-même.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et c'est vraiment